418-971-1011, il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. C'est très nuageux aujourd'hui, hein, la lumière, ça manque pas mal.
Oui.
Ça a-tu un impact sur toi?
Pas la luminosité, mais je te dirais, dans mon énergie là, actuelle, je suis pas allée marcher ce matin. Moi, je marche ou je cours tous les matins. Là, c'est un peu moins le fun.
Mais ça, c'est un genre d'après-midi où tu dînes, un gros dîner. Puis après ça, tu t'en vas à la maison, puis tu te couches.
Ah oui, un genre de gros spaghetti gratiné. Là.
Oh, ouais,
je comprends. Puis tu te mets un film sur la télé, tu couches sur le divan.
Sur le divan, sur l'épaule gauche.
Je comprends. Ouais. Emmitouflé dans la couverte.
C'est ça.
Juste assez pour voir l'écran avec ton oreiller.
Exact. 12 degrés sur Québec, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Nuageux pour toute la journée. Un minimum de 6 degrés pour ce qui est de ce soir, mardi. Demain, un ciel dégagé avec un maximum de 14 degrés. Mercredi, c'est le retour du soleil pour toute la journée, maximum de 14. Jeudi, c'est nuageux avec des probabilités d'averse à 60 % maximum de 14 degrés. Et vendredi, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 15 degrés. C'est aujourd'hui que le Canadien doit soumettre son alignement pour le début de la saison dans la Ligue nationale de hockey. Alex Barré-Boulet et Michael Pezzetta qui ont gagné leur pari. Là, ce qu'on a appris dans les dernières heures, c'est vraiment que Joshua Roy et Logan Mailloux vont aller dans la Ligue américaine pour un certain temps. Est-ce qu'ils seront rappelés cette année? Certainement. Mais c'est une déception pour ce qui est de Joshua Roy, qui a probablement un des meilleurs talents pour évoluer chez le Canadien de Montréal. Mais j'ai l'impression que comme autre chose, t'sais, on dirait que son désir de jouer au hockey n'est pas toujours là. Un gars extrêmement talentueux qui est parfois absent sur le jeu. Puis
il
on
pas
se
constant.
Demande qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça.
Il n'est pas constant, puis ça inquiète l'équipe, peut-être.
Quand il était dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était un gars qui aimait bien fêter. Il était jeune, il aimait bien fêter, puis il était pas, sa tête n'était pas toujours au hockey. Puis dans ses premières années dans la Ligue américaine et avec le Canadien, il s'est amusé un peu. Il s'est fait avertir deux puis trois fois. Puis là, ben, cette année, on nous a dit, parce que les gens sont mauvais, on nous a dit qu'il prenait ça vraiment au sérieux, le camp d'entraînement, puis que cet été, il s'était entraîné comme pas possible, puis il avait été très tranquille. Puis là, ben, c'est vraiment lors des matchs où il n'a pas démontré qu'il était un des meilleurs joueurs du Canadien, alors qu'il a le potentiel pour être un des meilleurs joueurs du Canadien de Montréal. Fait que petite déception pour moi pour ce qui est de Joshua Roy. J'aurais aimé le voir débuter l'année avec le Canadien de Montréal, mais ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc, on lui envoie un petit message. Pour ce qui est des Remparts de Québec, 2 victoires en 3 matchs pour les Remparts dans les Maritimes depuis jeudi, dont une de 5-0 hier face aux Eagles du Cap-Breton. Justin Côté qui compte maintenant 16 points en 7 matchs. Une machine, Maddox Dagenais, la nouvelle sensation des Remparts, 11 en 7, dont 6 buts. Donc, on est très gâtés du côté des Remparts. Puis NFL, bon, on vous en a parlé hier, les Cowboys qui l'ont emporté 20-17 sur les Steelers et les Saints qui jouent ce soir contre les Chiefs à 20h15. J'ai dit « Go Chiefs, go » et Pascal dit « C'est les Saints ce soir. » Non, c'est
non,
les Chiefs, toi,
les
ce
Chiefs
soir.
Aussi, ouais.
C'est Jeff
ouais.
Fortin qui a dit que c'était les Saints qui allaient remporter ce soir. OK, on s'en va au téléphone. Notre chum Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est là. Salut, Nick!
Bon midi tout le monde, ça va bien?
Oui, ça va bien. Quelle température il fait à Laval?
Je suis sorti tantôt, il fait quand même un peu chaud on s'entend pour un mois de d'octobre, là, puis pour un automne, il fait plus chaud qu'à Québec. Là, j'ai entendu ça tantôt, 12. Je suis content de ne pas être dans votre bout. Mettons que je serais un petit peu moins heureux à faire mon jogging cet après-midi, mais sinon pour le reste, là, c'est on prend ce qui passe, puis on se dit que l'été est vraiment terminé.
Ben,
donc,
toujours début octobre, là. Je veux dire, on a été chanceux jusqu'à maintenant, là.
Je sais, mais moi, c'est parce que je suis nostalgique de l'été depuis comme aussi longtemps qu'il a pris fin. Fait que c'est sûr que ça va pas aller en s'améliorant dans mon cas jusqu'au printemps prochain. Mais bon, ça pour le reste, je veux dire, c'est quand même un bel automne qu'on en profite. Puis je veux dire, les couleurs sont super, sont magnifiques. Moi, j'ai quand même des Laurentides à la base. Fait que c'est sûr que j'allais m'amuser un peu, monter voir de la famille dans le coin, puis profiter du spectacle de couleurs qui dure environ 2 semaines et demie durant cette période-là. Là, genre, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mettons les Laurentides ou mettons de la Naudière. Je dirais que les chaînes de montagnes dans ce coin-là sont magnifiques là, avec les changements de couleur à la mi-octobre. Mais après ça, ça devient laid, il pleut, puis il fait froid. c'est là qu'on retourne chez nous, puis on se met devant le foyer, puis on sort pas de la maison avant le printemps.
OK. Je sais pas si... Ben, en fait, on en a parlé, toi et moi, de la fameuse subvention là, que le gouvernement du Québec a octroyée à Québécois pour ce qui est des rencontres des Kings de Los Angeles à Québec. Deux matchs où le centre Vidéotron était pratiquement plein. On est autour de 17 000 personnes chaque soir. Là. Je veux dire, c'est pas rien, ce qui fait en sorte que ça devient un événement extrêmement rentable. Est-ce qu'on va poser des questions à Éric Girard, à savoir si, à un moment donné, si ça a été rentable l'exercice, on pourrait pas avoir notre argent?
Ben oui, c'est une bonne question, parce que la première chose qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est à quel point la subvention était nécessaire pour rendre l'événement rentable. Parce que je suis persuadé que n'importe quel, si on amène des équipes de la LNH à Québec ou dans n'importe quelle autre région, comme ça a déjà été le cas auparavant, on l'a vu en Nouvelle-Écosse, on l'a vu aussi durant les matchs pré-saison aux États-Unis, cette saison-ci d'ailleurs, à Wichita, au Kansas, on a vu ça à Indépendance au Missouri. Donc, il y a eu plein de municipalités qui ont été en mesure de tenir des matchs de hockey sans utiliser l'argent des contribuables pour rendre l'événement profitable. Là, c'est quand même une bonne nouvelle que, en bout de ligne, le centre Vidéotron était quasiment à plein les deux soirs. Ça évite que la perte soit plus importante que celle qui pouvait être annoncée, parce que c'est la raison pour laquelle une subvention était octroyée à la base. Le gouvernement voulait octroyer une subvention à Gestev parce qu'il disait que l'événement allait être déficitaire à cause des coûts, le fait de déplacer des équipes d'ailleurs. Donc, toute la tenue de l'événement coûterait assez d'argent pour que finalement une entreprise dise, ben là, on va être déficitaire, on a vraiment le goût de prendre le risque. Et c'est là que le gouvernement est venu soutenir le risque, avec notre argent, bien sûr. Là, maintenant qu'on sait que l'événement était effectivement un succès comme il aurait dû l'être avec ou sans notre argent, ce serait le fun de savoir effectivement combien ça l'a réellement coûté. Parce qu'au début, on a juste eu l'annonce. Ça va coûter entre 5 et 7 millions de dollars. On n'a pas encore l'heure juste sur le montant que ça nous a coûté. Et au final, ben, je pense que ça vaut la peine quand même de se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours mettre de l'argent des contribuables dans des événements sportifs comme on le fait aussi souvent au Québec? On le fait pour le Grand Prix, on le fait pour le PGA à Montréal, on le fait pour les Kings de Los Angeles. On va le refaire à nouveau pour le match de la Confédération ou les matchs de hockey qui s'en viennent plutôt en février prochain. Là, 480 000 $ qu'on met encore dans les matchs de hockey pour les recevoir à Montréal. Donc, ça commence à faire beaucoup d'argent. Puis à chaque fois, on dit, ben oui, mais les retombées économiques sont tellement importantes que ça justifie la subvention. C'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de mettre une subvention pour que l'événement ait lieu et qu'on ait d'aussi bonnes retombées? Je pense que c'est là que le bas blesse. Et la réalité, c'est qu'au final, quand on regarde tous ces événements-là ailleurs dans le monde, la plupart du temps, il n'y a pas de subvention. Mais au Québec, on essaie souvent de faire une petite passe-droit. On sait que le gouvernement de la CAQ, entre autres, a essayé. Je ne veux pas non plus faire des accusations directes, là, mais ça sentait un peu comme le show de boucan qu'on essaie de faire en fin de semaine pour essayer d'attirer les Nordiques à Québec. On le sait, puis j'aimerais ça que les Nordiques reviennent à Québec. Mais tu sais, la CAQ, d'un, ils ont nommé le ministre des Finances, le ministre du retour des Nordiques, M. Éric Girard. Puis en plus, il espérait que Gary Bettman se pointe à Québec dans le but de l'impressionner avec la foule puis l'événement. Et au final, rien de ça n'est arrivé. D'un, on n'a pas vraiment, je pense pas que l'équipe est sur le point de revenir, ne serait-ce qu'à un moment ou un autre. De deux, Gary Bettman ne s'est pas pointé à Québec. Et de trois, bon, on a eu quand même l'événement sportif. Mais est-ce que c'était juste un genre de show de boucan pour espérer de montrer à la LNH que Québec peut être une ville de hockey, comme elle l'a déjà été, ou c'était vraiment un événement aléatoire comme ça? Donc, j'ai hâte de voir la suite, mais je pense que la première des choses qu'on veut savoir, c'est combien ça a réellement coûté et à quel point on devrait arrêter de faire ce genre de subvention-là à l'avenir.
Parce que là, 17 000 billets vendus, il y a les concessions aussi qui ont fait énormément d'argent. Il va falloir que Québécois ouvre ses livres. Là. T'sais, moi, je les aime bien, Québécois. J'ai aucune raison de penser qu'ils pourraient nous mentir sur les chiffres, mais ils n'auront pas le choix. Parce qu'une subvention de 7 millions de dollars, entre 5 et 7 millions de dollars, c'est énormément d'argent. Puis Québécois qui fassent leur argent, moi, c'est bien correct, mais qui ne profitent pas de la mienne.
Ben c'est ça. Moi, à la fin de la journée, c'est pas la personne qui reçoit la subvention que j'accuse. C'est le gouvernement qui donne la subvention, qui est pleinement responsable de cette situation-là. Il y aurait pu avoir d'autres façons de faire. Honnêtement, je connais pas assez le milieu de l'événementiel pour dire comment ça aurait pu être plus rentable comme événement. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'on sait qu'il y avait des équipes, peut-être, qui auraient peut-être pu venir jouer, qui auraient été peut-être plus proches, qui auraient peut-être coûté moins cher en termes de déplacement. Il y a les fameux Canadiens de Montréal, mais il y en a sûrement d'autres, là, quelque part, comme à Toronto et autres, qu'on aurait peut-être pu faire venir. Donc, je sais pas c'est quoi les alternatives qui étaient sur la table au moment de prendre la décision de tenir l'événement, mais à tout moment, l'argent des contribuables n'aurait pas dû être utilisé. Puis de toute manière, le concept de retombée économique, c'est-à-dire celui pour lequel on va Ben, c'est le fameux concept qu'on utilise pour justifier toutes ces fameuses subventions-là. Ben, c'est un concept qui est extrêmement flou, ce qu'on peut faire parler dans toutes les directions possibles et qui est très dur vraiment à démontrer. Puis au Québec, on le sait, là, on se fait souvent promettre des retombées économiques là, complètement folles à chaque fois qu'on fait une nouvelle annonce de dépenses. Mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais de suivi. Puis la plupart des projections économiques qui sont là pour justifier les fameuses retombées à venir sont jamais fournies, sont jamais transparentes et même parfois sont inexistantes. Puis c'est ce qui nous permet vraiment de douter de la raison pour laquelle une subvention serait donnée à un événement sportif. Les retours sont quasiment nuls à chaque fois.
Ça me fait penser, dans le temps, on se demandait pourquoi il y avait des artistes qui étaient extrêmement connus au Québec, qui étaient hyper subventionnés. Bon, là, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais Éric Lapointe, je veux dire, il faisait des millions de dollars par année, puis on lui donnait quand même à chaque année des subventions. Puis on disait, ben oui, pour les subventions, mais à partir du moment où l'artiste fait ses frais, il peut-tu commencer à nous rembourser ce qu'on lui a donné, puis qu'on puisse prendre cet argent-là pour en donner à d'autres artistes peut-être un peu plus émergents, là, qui avaient de la difficulté à se faire connaître. Tu sais, dans ce cas-ci, tu te dis, OK, ben garde, on a fait de l'argent, ben on n'en aura pas besoin de la subvention, puis on pourrait peut-être la transférer ailleurs, tu sais.
Ben c'est sûr, mais en même temps, le gouvernement, quand il veut reprendre son argent dans ce cas-ci, soit il arrête de donner des subventions, ce qui serait pas mal la première chose à faire, soit il essaie d'augmenter les impôts en se disant qu'il va aller chercher l'argent autrement, puis c'est tout le monde qui y passe un peu. C'est sûr que pour l'instant, le modèle de subvention qu'on a au Québec, que ce soit pour le monde artistique, que ce soit pour dans le milieu corporatif, entre autres, je veux dire, ça a l'air de rien. Il y a un rapport qui a été publié il n'y a pas si longtemps par l'Institut Fraser qui dénombre, en fait, le par province, les subventions qu'on alloue aux entreprises sur une base annuelle. Puis au Québec, c'est environ en moyenne 6 à 6,2 milliards de dollars qu'on dépense en subventions aux entreprises à chaque année, avant même qu'on parle de toutes les autres grosses entreprises qu'on a subventionnées les dernières années. Dans le milieu artistique, c'est une fraction du 6 milliards que je viens d'énumérer à l'instant, mais c'est vraiment une culture qui est implantée depuis très longtemps. Et malheureusement, je veux dire, c'est une roue qui tourne. Je veux dire, à partir du moment qu'on subventionne un artiste ou qu'on subventionne une entreprise, le gouvernement se retrouve toujours dans cette posture du bras pogné dans le tordeur, où est-ce qu'il n'y a comme pas le choix de maintenir son programme de subvention et de continuer à subventionner pour garder les choses actives. On l'a vu avec les différentes entreprises au Québec qui sont toujours sur le bord de la faillite, puis qu'on se dit, ben, si on rajoute 10 millions de dollars en prêt dedans, peut-être que ça va fonctionner. Mais il y a peut-être un peu la mentalité similaire pour les artistes dans la mesure où ce qu'ils disent, ben, si on continue à subventionner, il va continuer à faire la promotion de la culture québécoise puis de la langue. Et donc, c'est bien de continuer, alors que c'est pas nécessairement un rendement intéressant pour les contribuables. Et on n'a pas non plus toujours le résultat qui est espéré à travers la subvention.
Vendredi, le 28 juin dernier, le gouvernement du Québec a parlé un peu de sa situation financière, puis il nous avait appris à ce moment-là que le déficit de 1,2 milliard de dollars de plus, le déficit serait de 1,2 milliard de dollars de plus que prévu. Et là, tu nous annonces, en fait, on a parlé un petit peu la semaine dernière, qu'il va être encore pire que ça, le déficit, là.
Oui, ben parce que là, on a eu une petite mise à jour en juin, juste avant que tout le monde s'en aille pour les vacances. Donc, c'est un peu passé inaperçu. Mais on a appris effectivement que le déficit qui avait été annoncé là pour l'année 2023-2024 était un peu plus important que prévu. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent avec ce gouvernement-ci. C'est-à-dire qu'on va nous faire, par exemple, une présentation du budget en mars. Puis après ça, on va nous dire, ah, finalement, on s'est un petit peu trompé dans les chiffres. On vous met ça à jour en juin. Après ça, on publie les comptes publics quelques mois plus tard. Effectivement, on est à côté de la plaque. Après ça, on fait une mise à jour économique à l'automne et on est encore à côté de la plaque pour le déficit projeté. Puis après ça, on arrive au budget suivant. Puis là, ben, on a perdu complètement de nord par rapport aux chiffres qu'on avait sur le dernier budget. Mais effectivement, ce qui s'est produit, c'est que, pour ceux qui s'en souviennent pas, bien sûr, là, puis c'est totalement normal, en 2023-2024, on avait un déficit des finances publiques au Québec d'environ 4 milliards, ou plutôt 1,6 milliard au compte public. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a une différence où la manière qu'on présente les déficits, on a le fameux déficit entre les revenus et les dépenses, et après ça, on a la loi sur l'équilibre budgétaire où est-ce qu'on fait un virement vers le fonds des générations, ce qui amène à gonfler un petit peu notre déficit. Donc, c'est pour ça que quand on parle à M. Éric Girard à propos du fameux déficit qu'il a présenté cette année, en fait, il va toujours dire qu'on a un déficit d'environ 8,4 milliards alors que tout le monde dit 11 milliards. C'est la différence entre le déficit au compte public et le déficit après le virement au fonds des générations. Ceci étant dit, ce fameux déficit au compte public, lui, est beaucoup plus élevé que prévu par rapport à celui qu'il nous a présenté l'année dernière. Pourquoi? Parce que les dépenses ont augmenté drastiquement et aussi parce que les revenus du gouvernement ont baissé. Et quand on parle de revenus, là, quand on parle de dépenses, on parle pas de n'importe quelle dépense, on parle vraiment des dépenses des ministères qui ont été plus importantes que prévues, notamment en santé et services sociaux. On a réussi à se planter dans les projections de dépenses de 2 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Puis quand on parle, par exemple, du secteur de la famille, entre autres, ou de l'emploi ou de la solidarité, on s'est planté respectivement là-dedans de 707 millions puis de 406 millions de dollars. Donc, c'est vraiment... On est à côté de la plaque, pas à peu près. Même le service sur la dette, donc les intérêts qu'on paye sur la dette à chaque année, on s'était planté de quasiment un demi-milliard sur le calcul. Donc, au final, en calculant là, les différents revenus supplémentaires que le gouvernement était en mesure d'aller chercher au fédéral, puis en calculant aussi là, les dépenses qui ont été ajoutées depuis, bon, on se rend compte qu'effectivement, par rapport à l'année dernière, si on prend en considération la mise à jour de juin puis celle de la semaine dernière, on est 1,7 milliard à côté de la plaque par rapport au déficit qui nous avait été présenté l'année dernière. Donc, pour grosso modo, parce que là, je sais que je peux en avoir perdu quelques-uns avec les chiffres, mais la réalité, c'est qu'on a un gouvernement qui est complètement dans les limbes quand c'est le temps de faire des projections économiques. Ça fait très... En fait, je peux pas dire... Je peux pas me rappeler s'il y a eu un seul ministre des Finances qui s'est autant réajusté au courant de l'année que Éric Girard l'a fait depuis qu'il est ministre des Finances. Et la réalité, c'est que ben ça fait en sorte que nous, ben vous et moi, en fait, en tant que contribuables, quand on essaie de connaître un peu leur juste par rapport aux finances publiques, ben on se base sur un document une fois, puis après ça, ben on reçoit une mise à jour quelques mois plus tard qui est complètement à côté de la plaque ou qui change complètement la donne par rapport aux revenus puis aux dépenses du gouvernement. Et c'est essentiellement à cause de ce genre de situation-là qu'on demande à ce qu'il y ait un directeur parlementaire du budget à Québec. Il y en a un à Ottawa qui fait cette job-là, justement. C'est-à-dire, quand M. Trudeau et Mme Freeland, la ministre des Finances du Canada, nous présentent des budgets puis qui sont à côté de la plaque, on a quand même un organisme ou une institution à l'intérieur du Parlement qui arrive et qui dit, ben effectivement, c'est faux. Ils sont plantés. La réalité, c'est que le déficit va être plus élevé que prévu. Il y a plus de dépenses que prévu dans tel domaine, peu importe. Donc, cet avis-là, externe et neutre, est très important. On l'a pas au Québec. Et c'est drôle parce que la CAQ le promettait il y a environ 12 ans. Quand ils sont arrivés à l'opposition officielle pour la première fois, ben pas l'opposition officielle, mais quand ils étaient à l'opposition à l'Assemblée nationale pour la première fois, en 2012, ils demandaient un directeur parlementaire du budget. Ils ont martelé ça en 2014. Et malgré tout, ils l'ont toujours pas mis en place. Et c'est peut-être le genre d'institution qui nous permettrait de au moins surveiller un peu ce qu'Éric Girard fait. Pas juste avec l'argent qu'il donne en subvention pour les matchs de hockey, mais aussi quand il nous parle de déficit, de dette, de dépenses, ben on aimerait ça avoir l'heure juste en tant que contribuable. Sinon, ben on est malheureusement dans les limbes et on doit se baser sur espérons-le, on doit se baser sur d'autres systèmes, d'autres mécanismes ou sinon peut-être d'autres experts externes et c'est pas normal considérant qu'on parle quand même du gouvernement du Québec.
Ouais, la CAQ est en panique actuellement là, pour ce qui est de l'argent qui sort puis versus l'argent qui est supposé de rentrer puis qui rentre pas, tellement qu'on nous dit qu'à travers les ministères, là, il y a un mot d'ordre, c'est économie, 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 on coupe, on coupe, on coupe. Eux, ils veulent s'en aller en élection avec un bilan qui est somme toute pas si négatif que ça. Là. Donc, c'est en bout de ligne, c'est les c'est les employés là-bas qui vont payer.
Ben oui, c'est surtout que j'ai très hâte de voir la stratégie du gouvernement du Québec là, présentement pour être en mesure de remettre de l'ordre dans ces chiffres, surtout dans les finances publiques. Surtout quand on sait que de un, ça c'est l'affaire que j'ai, honnêtement, ça m'a quasiment empêché de dormir quand c'est arrivé, là, qu'on nous présente un déficit de 11 milliards, un déficit record, et on nous dit, ben écoutez, on va vous présenter un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire l'année prochaine. Là, tu te dis, OK, c'est peut-être pas très responsable parce que c'est en ce moment le déficit. 2025, on est dans une année préélectorale, si on peut dire ça de même. Donc oui, on va avoir des petites annonces, on va avoir des ajustements, puis oui, on va avoir un genre de plan pour réduire les dépenses. Mais il y a personne qui s'attend à quelque chose de drastique ou à un coup de barre, mettons, à un an des élections ou avant, parce que généralement, un gouvernement qui veut faire un ménage, ça serait un peu comme le fait de Couillard, quand ils sont arrivés en 2014 au pouvoir. Les libéraux, ils ont fait le ménage, ils ont fait preuve d'une rigueur budgétaire, entre guillemets, en 2014 et 2016. Puis après ça, on a changé complètement l'angle de tir. Et là, ben, on dirait que Legault fait complètement l'inverse. On a dépensé comme des fous en 2022 et 2024. Là, on arrive à 2 ans des élections, on n'a pas de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Et on peut pas non plus arriver puis dire, bon, on va sabrer dans les dépenses puis couper tous les fonctionnaires à droite et à gauche parce que là, on va être ultra impopulaire quand va arriver les élections. Puis ça, c'est là que la game politique à l'embarque. Mais il y a aussi le fait que j'ai de la difficulté à prendre au sérieux cette volonté à ramener un équilibre dans les finances publiques. D'un, on a vu quand même certains ténors du parti quitter parce que justement, ils croyaient pas à ça, notamment Youri Chassaigne. On a aussi le fait qu'on a Mme Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor. Elle dit carrément qu'elle ne veut pas couper de poste dans la fonction publique. Je suis désolé, mais tu peux pas faire un ménage dans les finances publiques du Québec où est-ce qu'on a une bureaucratie qui a augmenté quand même assez drastiquement. Juste dans les ministères, c'est 15% d'effectifs de plus depuis que Legault est arrivé au pouvoir. C'est 72 000 fonctionnaires de plus quand on prend en considération tous les départements et organismes du gouvernement du Québec. Et on dit qu'on veut pas toucher à ça. À la fin de la journée, il va falloir être conséquent quelque part. Soit on s'attaque à ce qui crée ces augmentations de dépenses, ou sinon, il va falloir aller chercher davantage de revenus. Mais le gouvernement du Québec, je m'excuse, mais il ne peut pas quand même nous imposer plus de taxes, plus d'impôts. Après nous avoir donné une baisse d'impôts, d'ailleurs, puis là, il ferait un 180 degrés dans le but de sauver la face et de ne pas avoir à faire ce qui est nécessaire pour ramener l'équilibre des finances publiques. En tout cas, pour moi, c'est perturbant. J'ai très hâte de voir si au prochain budget, puis même d'ici le prochain budget, si le gouvernement va avoir l'audace de nous présenter un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, parce que c'est urgent. Et plus ils attendent, plus on aura de la difficulté à les prendre au sérieux quand va venir le temps de passer à l'acte.
Nick, on va se laisser là-dessus, mais Youri Chassaigne, quelle déception. Ce gars-là était de la droite économique, un gars qui voulait réduire la taille de l'État, laisser plus d'argent aux contribuables, qui embarque avec la Coalition Avenir Québec, qui devient backbencher, qui démissionne en disant « ben moi, j'ai le goût de parler », puis qui dit rien depuis qu'il est parti. De A jusqu'à Z, c'est un fiasco.
Ben c'est ça, c'est un fiasco, mais en même temps, ça démontre à quel point c'est une coalition qui n'était pas très solide. On présente ça comme une coalition, c'est-à-dire qu'il y a des forces de droite, de gauche, des souverainistes, ouais, et fédéralistes, mais au final, c'est pas tout ce monde-là qui parle ou c'est pas tout ce monde-là qui est écouté, puis il en faisait malheureusement partie.
Mais je veux dire, il démissionne de la CAQ en disant « j'ai des choses à dire, je veux parler, laissez-moi parler », puis depuis ce temps-là, il dit rien.
Ben c'est ça le problème. C'est un problème récurrent, en fait, dans la politique au Québec. Quand t'es un élu indépendant, bonne chance. Il n'y a plus ben de tribune. Les journalistes s'intéressent plus vraiment à ce que tu as à dire. Et d'un autre côté, si t'es moindrement sur un comité parlementaire, t'es parmi les derniers à parler. On l'a vu entre autres avec Claire Samson quand elle était indépendante avant de passer au Parti conservateur du Québec. C'est plate, mais quand on est indépendant, on est dépourvu de tout moyen réel pour avoir un impact, même si on a les meilleures volontés du monde.
On se reparle la semaine prochaine, Nick.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Bye-bye. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable.ca. Midi 59, on s'arrête. Marceau.